With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Ceux qui prétendent que rien n'a jamais été réglé par la guerre disent des âneries. En fait, rien dans l'histoire n'a été réglé autrement que par la guerre. Cette phrase est de Winston Churchill. Le problème avec Churchill est qu'il se trompait rarement. Le monde court-il à la guerre comme les somnambules que furent les acteurs et les observateurs de l'été 1914, dont un historien, Christophe Clark, a tiré un livre qui fait aujourd'hui référence. La thèse principale est qu'il n'y a pas un coupable, mais des co-responsables, d'où le titre du livre « Les somnambules, une marche commune à la guerre ». La deuxième thèse est une conséquence, il faut relativiser le poids de l'Allemagne dans l'escalade de l'été 14. En 2013, le livre a passionné les lecteurs parce qu'il proposait un regard différent sur la Première Guerre mondiale. En 2022, nous avons une analyse binaire du conflit russo-ukrainien. L'histoire est toujours plus complexe et la réalité sans doute multiple. Sommes-nous les somnambules du temps présent? Marchons-nous tous collectivement vers la guerre? Voilà une question qui tourmente sans doute beaucoup d'entre nous. Éric Zemmour est avec nous ce matin. Bonjour Éric Zemmour.
Bonjour.
Sommes-nous les somnambules de 2022?
Toujours difficile de répondre à ce genre de questions. Je n'ai pas de boule de cristal. Et je m'épargnerai même le ridicule de faire des prédictions. Je ne sais pas. Effectivement, on voit bien que Poutine avait sous-estimé la résistance ukrainienne. On voit bien que, si vous voulez, il y a deux façons de voir les choses. En fait, pour lui, l'Ukraine, c'est la Russie, c'est la même chose, c'est le même peuple. Et pour les Ukrainiens, manifestement, ils sont en train de forger une identité nationale dans ce combat contre la Russie. Pour eux, ils sont une colonie qui se détache de la Russie, un peu comme notre Algérie. En revanche, pour Poutine, lui se voit comme une espèce de Lincoln qui empêche une guerre de sécession. Et voilà, on a les deux points de vue s'affrontent, et ça monte. Et effectivement, la guerre s'enlise. Au fur et à mesure que Poutine s'enlise, il va vouloir monter encore les enchères, et la guerre va devenir de plus en plus dure.
Vous allez être avec nous durant ce premier quart d'heure. On va parler de trois choses. La séquence « La France insoumise ». La proposition d'Emmanuel Macron, l'accueil des étrangers dans le monde rural. Et puis on parlera également de l'école. Mais il est 9h, Audrey Berthaud.
Une réunion extraordinaire entre les ministres des Affaires étrangères européens a eu lieu cette nuit. Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, a affirmé que les 27 examinaient de nouvelles sanctions contre la Russie, qui a une nouvelle fois brandi la menace nucléaire. Il était également question de nouvelles aides militaires pour l'Ukraine. Le verdict du procès du meurtrier de Julien Videlaine est attendu aujourd'hui. Le jeune homme avait été victime d'un crime d'honneur en 2014, tué par le père de sa petite amie. Mardi, le père avait affirmé avoir perdu l'esprit à la vue de sa fille avec un homme nu. Ce matin, l'heure sera aux réquisitions et à la plaidoirie de la défense. Enfin, près de 6 Français sur 10 pensent que fermer la centrale de Fessenheim était une mauvaise décision. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. La centrale avait été fermée en 2020. Contre l'avis de plusieurs défenseurs du nucléaire.
Trois thèmes, je l'ai dit avec vous ce matin, la séquence La France insoumise, Emmanuel Macron qui imagine davantage de migrants à la campagne, et puis on parlera de l'école. Clémentine Autain et Daniel Obono ont reconnu ce mardi, lors d'une conférence de presse des parlementaires insoumis à l'Assemblée nationale, des tâtonnements dans la gestion des cas de violences sexistes au sein de La France insoumise après la mise en retrait d'Adrien Quatennens. Je vous propose d'écouter Mathilde Panot et vous allez pouvoir réagir à cette séquence.
Que celles et ceux qui sont en train de faire les donneurs de leçons et qui ont eu comme ministre M. Abad, M. Darmanin, d'abord nettoient devant leur porte. Je veux dire, cette question-là, elle est sérieuse. Elle ne peut pas être utilisée de manière politicienne sur les uns ou les autres. Et je crois que tous les partis, puisque dans toute la société, il y a des violences sexuelles et sexistes faites contre les femmes, eh bien, cette lutte-là, elle traverse l'ensemble des partis.
Éric Zemmour, que vous inspire la séquence, la mise en retrait d'Adrien Quatennens, les tweets de Jean-Luc Mélenchon, la séquence, j'ai envie de dire, la France insoumise?
D'abord, comme beaucoup de gens, un grand sourire narquois. Vous savez, c'est un peu comme quand on découvre le curé au bordel. On a envie de se moquer de lui, parce qu'il nous a fait la morale, et puis après on le retrouve dans des circonstances autres. Eh bien, les gens de la France insoumise, c'est la même chose. C'est eux qui ont forgé notre monde d'aujourd'hui. Ce sont eux qui ont fait de la vie privée un sujet éminemment politique. C'est eux qui ont dit cette phrase fondamentalement totalitaire, la vie privée est politique. Et donc maintenant, ça leur saute au visage. Évidemment, ça se retourne contre eux. Mais c'est un vieux classique révolutionnaire. Vous savez, on dit toujours la révolution mange ses enfants. Eh bien là, la révolution forgée, la révolution déclenchée par les gens de la France insoumise, cette révolution totalitaire, est en train de manger les enfants de la France insoumise. Vous savez, l'histoire de la révolution, qu'est-ce que c'est? Vous vous souvenez? Mirabeau, Danton, Robespierre, à chaque fois, il y a plus à gauche, il y a plus révolutionnaire. Et les révolutionnaires d'hier sont considérés comme des traîtres à la révolution. Et bien là, c'est la même chose. Ils ont déclenché cette révolution. Et bien maintenant, ils sont mangés par cette révolution. Et vous verrez, dans 5 ans, dans 10 ans, il n'y aura plus que des femmes à la France insoumise. Et 5 ans plus tard, il n'y aura plus que des femmes racisées, comme ils disent, c'est-à-dire des femmes noires ou maghrébines. Parce que c'est la révolution. Sandrine Rousseau et Clémentine Autain auront la peau de Jean-Luc Mélenchon. Et son tweet était très intéressant.
Non le pas, tweet de
oui,
Sandrine Rousseau
de Jean-Luc Mélenchon quand il défend son ami Quatennens. Très intéressant, pas pour ce qu'on a dit, mais pour une raison encore fondamentale qui est que ça prouve qu'il ne comprend plus que la révolution est en train de l'avaler. Vous savez, Kundera a une très jolie phrase, il dit « qu'est-ce que la gauche ? Ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une ambition, un idéal, non, c'est une grande marche. C'est-à-dire il faut marcher. Peu importe vers où on marche, l'important c'est de marcher. » Et bien Jean-Luc Mélenchon, avec son tweet, a montré qu'il ne marchait plus. Et donc, à partir du moment où on ne marche plus à gauche, on est mort. Dans 10 ans, Clémentine Autain dira que Jean-Luc Mélenchon était un homme de droite. Comme aujourd'hui, ils disent que Valls est un homme de droite. Comme moi, vous savez, Pascal, moi, ce que je dis sur l'immigration, l'assimilation et tout ça, c'était le discours de la gauche jusqu'aux années 50-60. Et puis aujourd'hui, la gauche m'a abandonné, m'a largué. Et donc maintenant, ils me traitent d'extrême droite.
Mais sur le fond, on peut considérer que c'est une bonne chose que M. Quatennens se retire, puisque lui-même admet qu'il a donné une gifle à sa compagne.
Moi, si vous voulez, je considère que ces histoires-là sont du domaine privé. Ce ne sont pas du domaine politique. Non, c'est du domaine privé, c'est la loi. S'il a fait ça, c'est mal, donc il doit être puni. Et encore faut-il qu'il y ait une plainte. C'est du domaine privé. Ça n'a rien à voir avec la politique. Mais encore une fois,
Est-ce que quelqu'un qui frappe sa femme peut-il avoir une fonction politique dans la société? C'est une bonne question.
Moi, non, ce n'est pas une bonne question.
Ah bon?
Non. Oh, excusez-moi. Frapper sa femme, c'est mal. Mais c'est la justice qui doit punir ce genre d'acte. S'il y a plainte.
Il y a une éthique, quand même, d'un homme politique.
Non. Parce que vous êtes rentré dans leur système. Vous considérez que ce qui se passe dans la vie privée relève de la politique. Vous avez été contaminé vous-même, Pascal Praud. Mais voyez, ils ont réussi. Même pour quelqu'un comme vous, vous considérez que ce qui se passe dans le domaine privé a une conséquence sur le plan politique. Non. Ça, c'est une conception totalitaire de l'histoire. C'est-à-dire qu'on va surveiller les gens, en disant...
J'ai envie de connaître la personne.
Un tribunal révolutionnaire, d'ailleurs, leur comité des violences, etc. C'est quoi? C'est un tribunal révolutionnaire. Et Sandrine Rousseau, elle accuse... comme sous la Révolution, comme sous la Terreur en 1793, elle accuse les uns et les autres, maintenant c'est Julien Bayou, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est bien fait pour eux. Vous voyez? C'est la Révolution qui mange ses enfants.
Bon, les violences sexistes, elles existent à droite ou à gauche, de toute façon. Damien Abad a été soupçonné et il est présumé innocent, comme toujours, mais il est sorti du système.
Comprenez bien.
Parce qu'il y a une exigence d'éthique sur ceux qui nous gouvernent, pas que sur ceux qui nous gouvernent, d'ailleurs, sur ceux, c'est vrai pour un chanteur. Il y a un comédien, par exemple, qui est dans une affaire de violence sexiste, il est sorti du système.
Encore une fois, Pascal, cela relève du domaine privé et de la justice.
Le public, ce que je veux dire, c'est que le public n'accepte pas ça.
Le public n'accepte pas.
Quand il apprend ces infos-là, il n'accepte pas.
Le public a été endoctriné par cette propagande. Le public, il ne sort pas tout seul. Le public, il y a 30 ans, il n'aurait pas raisonné comme ça. Donc il y a une machine de propagande. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je parlais dans mon discours de la rentrée d'université d'été de grand endoctrinement.
Deuxième sujet, si vous le voulez bien, parce que le temps nous presse, c'est Emmanuel Macron et, si j'ose dire, les migrants à la campagne. Il a dévoilé jeudi les contours du futur projet de loi sur l'immigration qui doit être présenté début 2023 et parmi les mesures possibles, envoyer des réfugiés à la campagne. Alors vous avez réagi dans un tweet, Macron ne nie plus l'existence du grand remplacement, il l'assume et il l'aime. Il veut l'organiser avec enthousiasme. Bon, vous êtes servi d'une phrase peut-être pour tirer une interprétation que je pense le président n'imaginait peut-être pas.
Ben moi, je pense qu'aussi. Moi, vous savez, je trouve qu'il y a une espèce de... Chacun trouve son vocabulaire. Moi, j'appelle ça le grand remplacement. Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on en parlait, appelle ça la créolisation. Et Emmanuel Macron a trouvé, lui, son mot, c'est la transition démographique. Qu'est-ce que ça veut dire, transition démographique ? Ça veut dire qu'on est en transit d'une situation, c'est-à-dire le peuple français... Blanc, de culture chrétienne, de culture gréco-romaine, etc., à un autre peuple. Transition démographique. Les mots ont un sens. Ça s'appelle le grand remplacement. Donc, jusqu'à présent, on ne savait pas exactement ce qu'il en pensait. Maintenant, on sait. On sait que non seulement il l'accepte, mais il l'aime et il veut l'organiser. C'est quand même une nouveauté extraordinaire. On a changé de, non pas de degré, mais de nature. C'est-à-dire que jusqu'à présent, et on le sait, tous les gens nous en parlent, et les livres de Christophe Guillouis, vous vous souvenez, le racontent très bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que les Français ont quitté les banlieues. Parce que justement, ils ne supportaient plus
les Français
de souche. Les Français de souche, et même, d'ailleurs Guillouis l'explique très bien,
parce qu'il y a plein de Français dans les banlieues.
Même les immigrés, en particulier du Maghreb, qui veulent éduquer leurs enfants à la française, quittent ces banlieues. Parce que c'est absolument insupportable et que le mode de vie n'est plus un mode de vie français, mais un mode de vie islamique, avec les boucheries halal, avec les femmes voilées, etc. Donc, les gens quittaient la banlieue. Ils allaient dans les petites villes. Et puis, petit à petit, les petites villes, elles aussi, ont subi les ravages de l'immigration à cause de la loi SRU, etc. Et maintenant, qu'est-ce que dit Emmanuel Macron ? Dans le moindre village, il peut y avoir des centaines d'immigrés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les Français ne peuvent plus fuir. Ils doivent changer de pays maintenant pour fuir les ravages de l'immigration et de l'islamisation du pays. C'est ça que nous dit Emmanuel Macron. C'est gravissime.
Ceux qui attaquent votre discours relèveront dans la formulation que vous avez utilisée. Les Français ont quitté les banlieues et ils verront dans cette phrase-là que vous ne considérez peut-être pas ceux qui vivent en banlieue, qui ont la nationalité française, qui sont nés sur le sol de France, comme des Français.
Mais mon cher Pascal, je vais vous dire, quand vous interrogez des enfants dans des écoles, on a fait l'expérience 10 fois, des écoles de banlieue, et qu'on leur demande de quelle nationalité ils sont, qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Ils vous répondent algériens, marocains, sénégalais. Peu vous répondent français. Moi, simplement, j'écoute ce que disent ces gens. Et quand ils estiment qu'ils sont français, quand ils éduquent leurs enfants à la française, ils sont français, pour moi, comme pour tout le monde. Après, on se sent français ou on ne se sent pas français. Et il y a beaucoup de gens dans ces banlieues qui ne se sentent pas français et qui ne sont pas encouragés à se sentir français puisqu'on ne vit plus à la française. Et que donc, ce sont des territoires qui ne sont plus en France, en vérité, qui sont pris par la civilisation islamique. Parce qu'il y a une civilisation islamique, une grande civilisation islamique, et qui a une capacité d'assimilation exceptionnelle d'ailleurs, et qui est en train de le montrer sur notre territoire. Donc vous savez, moi, ça va quoi, ça m'a fait penser la déclaration d'Emmanuel Macron, à ce qui s'est passé dans tous les territoires colonisés. C'est-à-dire que dans tous les territoires colonisés, que ce soit au temps de la Rome antique ou de l'Algérie au XIXe siècle, qu'est-ce qu'on faisait ? On donnait des terres prises aux indigènes, aux colonisateurs, aux colons, comme on disait. Ben, c'est exactement ce que fait Emmanuel Macron. Il donne des terres, il va construire des habitations, il va donner de l'argent à des gens qui viennent de l'étranger. Ça s'appelle une colonisation. Pourquoi ces terres ont été désertées ? Mais parce qu'il n'y a plus rien, parce qu'il n'y a plus de travail, il y a eu des désindustrialisations et des délocalisations, parce qu'il n'y a plus de services publics, parce qu'il n'y a plus rien. Les gens sont partis à cause de ça. Moi, pendant la présidentielle, j'avais proposé exactement le chemin inverse de celui d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que j'avais dit, on arrête toute entrée, et on arrête la loi SRU qui oblige à faire du logement social et donc à mettre des immigrés partout, et on expulse tous les gens qui n'ont absolument rien à voir ici. Délinquants, clandestins, chômeurs, etc. En fait, il y a une différence. Emmanuel Macron veut répartir. Moi, je veux repartir. Et ce n'est pas la même chose.
Bon, c'est souvent une discussion qu'on a eue ensemble sur la généralisation. Il y a évidemment, dans les banlieues, des Français d'origine étrangère qui se sentent...
Bien sûr. Mais français, d'ailleurs, je vous dis,
bien sûr.
Qui lui explique ça très bien, ils s'en vont. Ils s'en vont.
Bon, dernière chose, parce que le temps presse, bien évidemment, je voulais parler de l'école. Et alors là, surprise. J'ai lu Le Figaro littéraire la semaine dernière et je suis tombé sur un papier de Pierre Nora, une interview de Pierre Nora, grand intellectuel.
Absolument.
Plutôt placé à gauche.
Bien sûr.
Et que ne fut-elle pas ma surprise ? Voilà ce qu'écrit Pierre Nora dans ce livre, Une étrange obstination. Il dit « J'ai voulu respirer le parfum d'une époque aujourd'hui terminée et qui a été l'une des plus fécondes sur le plan intellectuel. Il est clair que l'on passe d'un type de culture à un autre. » Lequel paraît aujourd'hui à des gens de nos générations comme une forme d'inculture. Il dit notre culture classique était un mélange de trois éléments, tradition d'humanisme, littérature, histoire, fort lien civique. Ces trois éléments, dit-il, sont atteints, c'est certain. L'âge de Gutenberg est terminé, on passe à une culture fondée sur l'image, rajoute-t-il. Je ne dirais pas que la jeunesse actuelle est moins intelligente que nous, mais qu'elle vit une vie qui nous est étrangère et c'est l'école qui est surtout responsable. Mais j'ai dit, mais Pierre Nora, il dit la même chose qu'Éric Zemmour ?
C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, sur la gauche. Pierre Nora, il était de gauche. Et puis, la gauche l'a largué. Vous voyez ce que je veux dire ? Lui, il se croit sincèrement encore de gauche. Et en fait, la gauche l'a largué, parce que la gauche, maintenant, c'est tout le contraire de ce pourquoi il a vécu, et ce pourquoi il a réfléchi, et ce pourquoi il a fait ses œuvres magnifiques, les lieux de mémoire, etc. Donc c'est typique de ça. Et il a tout à fait raison. L'école aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est deux choses. Un, c'est l'effondrement du niveau scolaire. L'effondrement. Sur le plan de l'histoire, de la littérature, du français, de l'orthographe, des mathématiques. On est nul. C'est-à-dire qu'on est 23e sur 27 dans les classements PISA. On est au niveau de la Bulgarie. Et c'est phénoménal ce qui nous arrive. Bon, ça, c'est une première chose. Et puis, deuxièmement, c'est la propagande. L'un et l'autre sont liés, d'ailleurs. On a abaissé le niveau pour que les enfants n'aient plus les moyens intellectuels et culturels de comprendre le monde. Et puis, ils sont maintenant des proies beaucoup plus faciles pour l'endoctrinement, le grand endoctrinement et la grande propagande. La grande propagande qui est ce que les Américains appellent le woke, c'est-à-dire, en fait, la défense de toutes les minorités, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient raciales, etc. Et Emmanuel Macron nous met un ministre, M. Papendaï, qui est un théoricien de cette idéologie woke, qui considère que, vous avez vu, il va aux États-Unis pour dire que la France est raciste. C'est magnifique. Merci, M. Papendaï.
Vous voulez qu'on l'écoute ? C'était hier, on en a parlé d'ailleurs. Juste, Papendaï, cette sortie qui a pu étonner, parce qu'il est en dehors de France, il est dans une université de Virginie, et il explique effectivement que la France est raciste, alors que lui-même est un ministre...
Je ne vous le fais pas dire. Il a eu accès à toutes les écoles de la République française... Et
je rajouterais qu'il est d'une famille également qui est privilégiée, en tout cas, sa sœur, Marie Ndiaye, a eu un prix Goncourt.
Et lui, il a compris d'ailleurs ce que je dis. Hein. Il met ses enfants à l'école alsacienne.
Oui. Écoutons-le.
Le concept de race, comme vous le savez, est encore très sensible en France. Nous sommes actuellement dans un contexte politique où les organisations d'extrême droite sont puissantes, comme aux États-Unis d'ailleurs. Et il est difficile d'aborder les questions ethno-raciales de manière nuancée et complexe.
L'organisation d'extrême droite, c'est vous.
Ouais. Mais c'est ce que je vous disais. Le discours, lui, pour la gauche républicaine du 19e siècle jusqu'aux années 60, est un raciste. Ou en tout cas un racialiste. Parce qu'il parle de race. La France est universaliste. Elle méconnaît et elle ignore superbement les races. Donc ce monsieur tient un discours qui relève les races. C'est un discours au minimum racialiste. Et aujourd'hui, on nous traite d'extrême droite, alors que moi, je tiens le discours français traditionnel, c'est-à-dire assimilationniste, universaliste. Vous voyez, tout est cul par-dessus tête. Donc ce qu'on a proposé avec mon parti Reconquête, on a organisé ce qu'on appelle les parents vigilants, c'est-à-dire un système avec les gens qui nous signalent tout ce qui les scandalise, tout ce qui les choque à l'école. Et on a déjà des listes et des listes d'événements.
Exemple.
Exemple. Une infirmière qui passe dans les classes pour dire que les garçons peuvent porter des jupes. Un professeur qui organise une pièce de théâtre avec des acteurs nus devant les enfants. Des associations LGBT qui ont table ouverte dans un établissement. Des élèves qui nous écrivent, je pense à un par exemple qui écrit « Je suis en première, dans un lycée de Nice, et je souffre de la propagande insupportable. » Alors, les cours de français, c'est un texte féministe d'Olympe de Gouges. Les cours d'anglais, c'est un texte sur le racisme aux États-Unis, etc., etc. Et on en a comme ça des dizaines et des dizaines. On a déjà notre mouvement Les Parents Vigilants, c'est plus de 20 000 personnes. Donc je pense que nous allons maintenant harceler les établissements parce que c'est absolument scandaleux de faire tout cela. Et donc nous devons maintenant le dire publiquement et le faire remonter à la surface.
Mais que les enfants soient prévenus ou alertés que tout le monde n'a pas la même vie sexuelle, que tout le monde n'a pas le même modèle, que ça développe une forme de tolérance pour ceux qui peuvent être différents, que nous puissions tous vivre ensemble avec des opinions, des sexualités, des regards différents. Peut-être est-ce une bonne chose ?
Pascal, est-ce qu'on vous a appris ça à l'école ? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous ne vivez pas avec des gens très différents, etc.
Je pense, si vous me permettez, pour reprendre le cas, vous parliez des associations LGBT, c'est que quand, à l'école, j'avais 10 ans, 11 ans, s'il y avait dans la classe un garçon qui se sentait attiré par les garçons, il le vivait beaucoup plus mal qu'aujourd'hui. Et c'était sans doute plus difficile et peut-être
était-il Pascal,
ostracisé
mon cher Pascal,
dans la classe.
D'abord, 10, 11 ans, c'est un peu tôt.
Ben c'est là l'orientation sexuelle, c'est là qu'elle se déclare
vous êtes,
généralement.
Vous êtes précoce, moi j'étais moins précoce que vous.
L'orientation sexuelle, elle s'impose
oui,
à toi.
Oui, oui, oui. Enfin bon, et ça dépend où, cher Pascal. Aujourd'hui, dans les écoles de banlieue, les gens, comme vous dites, les jeunes homosexuels se font plutôt casser la figure, beaucoup plus que dans nos écoles de notre temps. Excusez-moi.
Non, mais je parlais de la tolérance, juste, il vous reste 30 secondes. Sur la tolérance aujourd'hui, que peuvent
moi,
peut-être
je
apporter...
Pense que l'école n'est
écouter
pas...
Écouter ces minorités actives.
L'école n'a pas à faire de la propagande, même pour des bonnes raisons. Voilà. L'école doit apprendre à lire, à écrire, à compter. Ça serait déjà pas mal, parce qu'elle ne le fait plus. Donc il faut reprendre les mérites, reprendre le rôle fondamental de l'école, revaloriser le mérite. Et vous avez vu, j'ai vu Papendaï, le premier discours qu'il fait, il dit « Mon premier objectif, c'est le bonheur à l'école et la lutte contre les inégalités sociales ». Non, l'objectif, c'est le retour de l'excellence, du mérite à l'école.
Eh bien, merci. Merci d'être intervenu sur ces trois sujets. Je dois dire, parce que hier, j'ai cité... le compte parodique de Madame Pannier-Runacher. Et effectivement, ensuite, j'ai immédiatement rectifié. Mais bien sûr, les propos que j'ai fait tenir à Madame Pannier-Runacher, étaient évidemment inexacts. C'était un compte parodique. On se fait surprendre parfois par les comptes parodiques, mais parfois, c'est mal. Et je suis évidemment responsable de cela. Immédiatement, une minute après, j'avais déjà rectifié, mais il est bon de le redire, parce que quand on fait une erreur, il faut tout simplement le dire. Merci Eric Zemmour.
Merci à vous.
Merci, et on va poursuivre cette émission avec Olivier Dartigolle, avec Gérard Garrerou, avec Philippe Guibert et avec Alain Jakubowicz. On va peut-être d'ailleurs commenter ce que vous avez dit, et on recevra en fin d'émission également Robert Ménard. À tout de suite.
Salut mon Pascal.
On va parler bien sûr de la Russie, si, on va parler également de la France insoumise, des éoliennes, puisque le président de la République aujourd'hui visite le parc éolien. Nous sommes avec M. Jakubowicz, et ça me fait plaisir de vous revoir sur ce plateau, Gérard Carrérou qui est là, Philippe Guibert que vous connaissez, bonjour. Olivier Dartigolle. Bon, c'était intéressant comme toujours d'écouter Éric Zemmour, c'est toujours intéressant d'ailleurs de l'écouter, et puis après on est d'accord, pas d'accord, on peut sur la société, sur l'école. Bah, moi, je retiens ce qu'il dit sur l'école. L'école, qui contestera que l'école, que les jeunes enfants aujourd'hui ont du mal à écrire, ont du mal à compter, ont du mal à savoir si Louis XV est avant Napoléon, ont du mal à connaître la grammaire, etc. Qui, vous l'avez dit, vous, Philippe, vous corrigez en ce moment des
des copies de Jean Combac plus 4, Bac plus 5. Vous êtes effrayé par le niveau de grammaire, le niveau de vocabulaire.
Oui, et puis la perte de culture historique, donc, littéraire.
Voilà, donc il y a quand même un souci majeur dans ce pays, un souci qui est nié. Disons-le. Donc,
ce qui m'a frappé dans l'interview d'Éric Zemmour, c'est que c'est toujours un excellent analyste. Enfin, après, on est d'accord ou pas d'accord, mais il a toujours ce talent qu'on ne peut vraiment pas lui retirer. Est-ce que c'est encore un politique? Comment se situe-t-il? Quelle est sa stratégie politique? Là, j'avoue qu'en l'écoutant, c'était intéressant. Comme toujours.
Le phénomène de l'analyse, je trouve qu'il passe totalement à côté d'un phénomène de société concernant les violences faites aux femmes.
Ah oui. Oui, ça c'est.
Là-dessus, sur que son point. Regard sur la banlieue, les quartiers populaires, il y a de la diversité. Il y a des choses qu'il décrit qui existent, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres réalités. Donc sur ces deux.
Le problème,
cas,
c'est qu'il y a aussi ça et que ce aussi ça gangrène le reste parfois. Mais il est 9h30 et c'est Audrey Berthaud qui nous donne les infos.
Un échange de prisonniers militaires entre l'Ukraine et la Russie a eu lieu, le plus important depuis le début de l'offensive fin février. Une annonce qui intervient après la mobilisation par Vladimir Poutine de centaines de milliers de réservistes. 5 commandants militaires, dont des chefs de la défense d'Azovstal, ont été transférés en Turquie, a souligné le président ukrainien. 4 jours après le passage de la tempête Fiona, le ministre délégué aux Outre-mer est en visite en Guadeloupe. Il a promis un arrêté de catastrophe naturelle avant samedi et une aide d'urgence, entre autres, pour potabiliser l'eau des rivières. Enfin, les Français très partagés sur l'accueil des étrangers dans des zones rurales. 48% des sondés sont contre ce projet selon notre sondage CSA pour CNews. Dans le détail, 41% des sondés sont plutôt pour et 11% tout à fait pour.
Je vous ai coupé la parole.
Non, vous indiquiez, il y a aussi ça et ça pose problème.
Ah oui, il y a aussi ça.
Mais il faut compléter le panorama avec d'autres choses qui existent, qui résistent, qui s'y passent.
Le problème, c'est la.
Non, mais c'est tout simplement.
C'est que ça gangrène. C'est que ça gangrène. C'est-à-dire que c'est même inadmissible, en fait, ce qui se passe parfois dans les classes. C'est bien. L'état d'esprit, qu'on ne puisse pas parler de la Shoah, c'est quand même inadmissible.
Non, il y a une enquête récente qui vient de dire que ça n'est pas le cas. Il y a une enquête récente qui vient d'être.
Mais l'autocensure,
pour dire qu'il y a des témoignages. Mais là-dessus, je ne vous dis pas que ça n'existe pas. Je ne vous dis pas que.
C'est un vrai problème, l'autocensure.
Mais bien sûr. Je vous dis que cette année scolaire encore, de très nombreux profs, et majoritairement, enseigneront la Shoah dans leur classe.
Oui, bien sûr, mais il y a des...
Dites-vous-le encore,
écoutez, parce que sinon, c'est
désespéré.
Il n'y a plus de Juifs à Sarcelles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont partis.
Est-ce qu'on peut se dire les deux choses?
Mais non, mais c'est ce que
donc,
je
si
dis.
Si vous ne voyez que...
Ils ont dû quitter Sarcelles.
Donc vous êtes dans l'idée que ce que je vous dis concernant les profs d'histoire dont j'ai été, ça n'existe plus. Il n'y a plus de profs d'histoire qui enseignent la Shoah.
Je vous dis qu'effectivement, nous sommes dans une société qui a beaucoup de soucis.
Les professeurs d'histoire qui font un travail remarquable sur ce sujet, souvent dans la difficulté, il faut le souligner, c'est un sujet que je connais bien, bien sûr, et... C'est vrai qu'il faut saluer ces professeurs qui sont courageux et parfois contre l'institution, mais qui font un travail pédagogique qui est absolument extraordinaire. On ne le dira jamais assez. Et je crois qu'il faut, effectivement, quand on a l'occasion de le dire, il faut le faire. Mais c'est souvent des initiatives personnelles. Ouais. Ils sont parfois à côté du programme et ils sont engagés, non pas militants, mais engagés, parce qu'ils savent qu'il y a des enjeux qui sont majeurs.
Olivier, la dernière fois que vous êtes rentré dans une classe pour enseigner l'histoire, c'était quand ?
Pascal, c'était. J'avais 38 ans, j'en ai 52.
Et oui.
Et je reste.
Il y a 14 ans, vous seriez peut-être vous-même le premier surpris.
Et je reste en contact avec mes collègues.
Oui.
Et j'ai autour de moi des adolescents qui sont dans les établissements.
Et Olivier, c'est très ségrégué.
L'école. L'école, c'est quand même.
Il se trouve que j'ai parmi les. Notamment la génération d'après moi, c'est-à-dire les enfants de mes amis qui sont dans l'enseignement, je crois que cette idée qui était une idée républicaine et je trouve formidable, qui était de défendre à l'école le droit effectivement au blasphème, donc aux caricatures, les fameuses caricatures de Mahomet, je crois que c'était une époque merveilleuse, mais que merveilleuse au sens de la démocratie et de la République. Mais aujourd'hui. Je pense, parce que j'en ai eu des échos, que dans grand nombre d'écoles, les profs parce qu'ils ont l'idée quand même qu'il faut se protéger d'une certaine manière et qu'ils ne seront pas soutenus par leur hiérarchie d'une autre manière, les profs ont dit ce n'est pas fondamental et donc on va laisser ça gentiment de côté. Et ce que je veux dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, une minorité seulement, malheureusement, une minorité de nos professeurs se risquera à aborder ces sujets. La Shoah aussi.
Bon, les minorités actives qu'a soulevé Éric Zemmour, c'est un vrai sujet aussi. C'est-à-dire que nous sommes sous le joug dans nos sociétés démocratiques des minorités actives qui font peser effectivement.
Et les parents derrière qui relaient les
parfois sur certains sujets et qui rendent les choses.
Mais on a parfois besoin aussi de minorités actives parce que le mouvement MeToo, qui a des effets pervers, mais quand même qui a eu quelques mérites aussi de montrer aussi la violence. Des hommes souvent en position de pouvoir. Il faut pas. C'est là où j'ai trouvé Éric Zemmour.
Quand Galilée dit et pourtant il tourne, il est très minoritaire.
Il faut quand même prendre garde à cet effet de balancier.
Vous, ça vous choque, par exemple. Je sais que cette justice médiatique, ça vous choque.
Ah, c'est un problème.
L'avocat que vous êtes, vous
suis au-delà du fait d'être choqué. C'est la négation même de la justice. La notion même de justice n'existe plus. Vous savez. Actuellement, on est tellement contraint par tout cela. Actuellement, je suis dans le procès dit Charlie, hypercachère, pour rejoindre ce que vous indiquez. Vous voyez, un constat, les victimes de l'hypercachère, ceux qui ont pu survivre, eh bien, ils ne sont pas au procès. Pourquoi ? Ils ont quitté la France. Vous vous rendez compte ce que ça signifie ? Ils n'ont plus confiance pour eux, pour leurs enfants. Ils l'ont dit, on a vu les vidéos. Ils ont quitté la France, leur pays, le pays où ils sont nés, le pays où ils ont été éduqués, le pays où ils se sont mariés.
Ils sont partis en Israël ?
Ils sont partis parce qu'ils n'ont. Ils sont partis en Israël ? Absolument. Oui. Pour la plupart, et notamment les dames.
Mais les Juifs de France vivent une situation très particulière. Beaucoup de Juifs.
Pour accéder, je me permets de le dire sur ce plateau, parce que je crois que c'est un élément important par rapport à notre justice. L'un des principes fondamentaux de la justice, c'est la publicité des débats. Tous les citoyens doivent accéder à la justice. Dans le procès Barbie, je l'ai souvent dit, c'était merveilleux. Des milliers de gens sont devenus contemporains de cette époque parce qu'ils sont venus au procès. Aujourd'hui, on n'accède plus aux salles d'audience. Il faut des badges, il faut des ceci, il faut des cela. Moi, avocat, avec mon badge au palais de justice, je ne peux pas accéder à certaines zones par des mesures de sécurité. Et ça, pour moi, ça me désole. Non pas parce que la sécurité est quelque chose d'important, mais d'une certaine façon... Les salauds ont gagné. Et c'est ça que je déplore. Parce qu'ils conditionnent notre vie. Aujourd'hui, on est conditionné par ces mesures de sécurité. Et moi, ça me terrifie. Comment faire autrement ? Je n'ai pas la solution.
Alain Jakubowicz.
Mais je constate qu'aujourd'hui, la justice n'est plus publique à cause de cela.
Alain Jakubowicz, vous dites ils sont partis parce qu'ils n'ont plus confiance en la justice. Ça, c'est votre interprétation.
Non, je n'ai pas dit en la justice.
Ils n'ont plus confiance simplement dans ce pays où ils sont en danger. Les Juifs de France sont en danger parfois dans ce pays, c'est pourquoi ils s'en vont.
Je n'ai pas dit en la justice. Quand on a vécu l'électrochoc que ces gens ont vécu de cette prise d'otage avec cet homme, cette Kalachnikov, qui ont vu des gens qui venaient acheter leur pain de mie se faire massacrer à coups de Kalachnikov, qu'est-ce que vous voulez dire à ces gens ? Rien à dire.
Bien sûr. Bon, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette intervention. Évidemment, l'actualité la plus forte aujourd'hui, ça reste la Russie, le rapport de force nucléaire, bluff, pas bluff. C'est discuté, et beaucoup discuté ces dernières heures dans toutes les antennes. Et au fond, personne n'a la réponse à cette question. Je voulais simplement qu'on voit le sujet de Solène Boulan sur le rapport de force nucléaire qu'il existe entre la Russie et les autres nations.
Depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis et la Russie ont respectivement réduit leur arsenal nucléaire. Selon l'Association pour le contrôle des armements, la Russie disposerait de 6257 missiles nucléaires contre 5550 pour les États-Unis. La France, première puissance nucléaire européenne, en compterait 290, un peu plus que les 225 missiles britanniques. Toutes ces nations possèdent aussi des sous-marins lanceurs de missiles nucléaires qui sillonnent l'océan et qui servent à dissuader l'ennemi. Sur le plan militaire, les États-Unis dominent avec plus d'1,4 million de soldats et près de 450 000 réservistes. Une flotte aérienne colossale, 13 000 appareils de combat et de transport, plus de 6 600 tanks et 1 300 lance-missiles. La Russie, elle, compterait 850 000 hommes, alors que Vladimir Poutine promet une mobilisation partielle des Russes en âge de combattre, soit 300 000 hommes supplémentaires. L'armée russe, c'est aussi 12 000 tanks, 3 400 lanceurs de missiles et plus de 4 000 aéronefs. Septième du classement, bien après la Chine et l'Inde, la France dispose de 200 000 soldats pour 35 000 réservistes. au Royaume-Uni. 194 000 soldats sont mobilisables et 37 000 réservistes.
Je ne sais pas si vous étiez là au début de l'émission, j'ai cité le livre « Les somnambules » que Dominique Jamais, hier, citait sur ce plateau. Et Les somnambules, c'est un bouquin qui est sorti il y a une dizaine d'années qui propose une analyse différente de la guerre de 14. C'est-à-dire que la thèse principale, c'est de dire qu'il n'y a pas que l'Allemagne qui est responsable. Bon, aujourd'hui, on a une analyse binaire. La Russie méchante, l'Ukraine gentille. Bon. Évidemment, il n'y a sans doute pas que cela. Et l'analyse des somnambules, c'est de dire que tout le monde est co-responsable et tout le monde va globalement tous vers la guerre. D'où les mots, les somnambules, tous ensemble. Bah, cette question, je vous la pose.
Oui, moi je redoute, par exemple, et ça a changé un peu ce matin, peut-être sur CNews, grâce aux interventions que j'ai entendues d'Henri Guénaud d'un côté et de Pierre Lellouche, qui est un député qui a été l'ancien conseiller diplomatique de Jacques Chirac. Tous les deux ont été un peu en rupture avec ce concert que j'entends depuis 48 heures, qui est un peu le concert de cette espèce d'alliance mortelle entre l'émotion cultivée largement, l'émotion de la guerre, d'une part, et ce que j'appellerais les faucons, c'est-à-dire une vision jusqu'au boutiste de la guerre. C'est-à-dire, maintenant, il faut y aller. En gros, c'est ça qu'on entend. Maintenant, les Russes sont affaiblis, alors il faut y aller. Il faut aller jusqu'au bout. Et on a M. Biden et M. Zelensky qui sont en pointe, mais il n'y a pas qu'eux. Il y a aussi Mme Ursula von Leyen et les autorités de la communauté européenne qui vont dans ce sens, c'est-à-dire allons-y maintenant, et ça c'est extrêmement dangereux, au point même que j'ai cru comprendre dans le langage du président de la République que lui-même qui avait eu depuis 6 mois une attitude relativement mesurée sur cette affaire est en train, pas autant que ceux que je viens de dénoncer, qui sont des extrémistes, mais lui est quelque part un petit peu, la petite musique est en train d'entrer dans son discours. Et dans cette dernière déclaration, quand il a parlé notamment de l'impérialisme, de nouvel esclavage, etc., il est un peu rentré dans ce concert.
L'un des problèmes dans le commentaire du conflit, c'est que bien évidemment il y a un agresseur et un agressé, mais dès qu'un commentateur fait une analyse un peu plus complexe, notamment en rappelant les accords de Minsk, en rappelant la pression sur l'élargissement de l'OTAN, ce que font d'anciens hauts diplomates en essayant de rappeler cette histoire-là. Ils se font quand même...
Même si l'agresseur, comme en 14, l'agresseur, c'est de la même manière, l'agresseur, c'est la Russie, c'est clair, et l'agressé, c'est l'Ukraine.
Quand on rappelle que Vladimir Poutine fait le récit de ce qu'il est en train de faire depuis des années, Et que l'exercice diplomatique consiste à réfléchir ce que l'autre pense. Mais on peut apparaître pour des pro-Poutine quand on dit ça. Donc le débat médiatique, j'ai envie de dire intellectuel sur ces sujets, il est difficile parce qu'on se retrouve sur une ligne de crête.
Bon, est-ce que nous allons vers la guerre, les somnambules? Vous l'avez lu peut-être ce livre?
J'en ai lu l'introduction parce que c'est un livre qui a marqué effectivement
qui avait été donné d'ailleurs à Vladimir Poutine, qui avait été donné à Angela Merkel.
Qui reprend des titres d'écrivains des années qui ont suivi la Première Guerre mondiale.
Qui a inspiré Guénaud d'ailleurs.
Et qui a inspiré Henri Guénaud dans son papier du Figaro. La vraie question c'est, est-ce qu'on peut...
Papier effectivement remarquable du printemps.
C'est un point de discussion. Est-ce que si on veut amener tout le monde à la table de négociation, il y a eu des tentatives, y compris turques, qui ne sont pas allées très loin parce qu'à un moment donné, ou la Russie ou l'Ukraine, selon les moments du conflit, ne voulaient pas vraiment négocier. Donc, est-ce que les Américains et Ukrainiens n'ont pas eu raison de dire « on va renforcer le rapport de force et enfoncer le front russe et là, on pourra négocier ».
Je vous interromps parce que vous savez que le président de la République est à Saint-Nazaire, il va voir le parc éolien. J'ai l'habitude de dire que les éoliennes sont globalement une horreur. Elles sont une horreur pour les yeux, pour les oreilles. Elles abîment le paysage, elles attaquent la biodiversité. Elles ne fonctionnent que 25% du temps. Elles ont une faible productivité. Elles sont soutenues à coups de subventions européennes et de lobbies industriels. Mais Franck Louvrier, qui est le maire de La Baule, dit que c'est un moindre mal, si j'ai bien compris. Bonjour Franck Louvrier, j'interromps notre petite discussion parce que vous êtes avec le président de la République, vous êtes sur le bateau. Je crois qu'il va vous emmener voir ces éoliennes que j'ai vues durant tout l'été et que je trouve globalement assez laid, si vous me permettez, dans votre beau paysage baulois.
Oui, tout à fait. Le président de la République va venir nous rejoindre. En fin de compte, si vous voulez, comme je le dis souvent, c'est un mal nécessaire. Ce parc éolien vient réparer les erreurs du passé, notamment l'abandon de la centrale nucléaire qui devait avoir lieu dans les années 70. C'est un abandon qui avait été fait par François Mitterrand. Et en fin de compte, ce parc éolien vient réparer les erreurs de François Mitterrand dans les années 80. Donc il faut bien, parce que nous sommes en sous-capacité énergétique sur ce territoire. Nous n'avons pas les capacités aujourd'hui pour répondre à la demande, et donc de ce fait-là, c'est une nécessité. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, à l'époque impulsé par Nicolas Sarkozy, il a fallu qu'on se dote de nouveaux moyens de mix énergétique différents, de nouveaux moyens éoliens, notamment en mer. C'est la raison de ce parc.
Bon, vous êtes où là, Franck ? Je crois voilà, reconnaître le pont de Saint-Nazaire derrière vous.
Exactement, je suis à Saint-Nazaire sur le bateau qui attend l'arrivée du président de la République, qui arrive juste de New York, de l'Assemblée générale de l'ONU, et qui vient, qui passe par l'ouest du même coup, qui s'arrête ici et qui repartira, j'imagine, cet après-midi à Paris.
Donc vous allez être ensemble sur ce bateau et vous allez aller au plus près voir ce parc des éoliennes.
Oui, oui, alors c'est sûr qu'on va avoir la vue de la mer et pas la vue de la terre. La vue de la terre est différente, comme vous le disiez à juste titre, ça a pollué quand même largement nos côtes. Mais malheureusement, je le dis souvent, c'est un mal nécessaire.
Bon, il y aura 15 000 éoliennes qui vont être installées, paraît-il, en France. Les pales ne sont pas recyclables. Les matériaux viennent de Chine. On a investi 9 milliards. L'immense majorité des ruraux n'en veulent pas puisque leurs maisons perdent de leur valeur. Bref, il y a peu de points positifs, sauf l'idéologie qui nous conduit à avoir ces éoliennes. Et paraît-il qu'il y a un comité d'accueil qui attend.
Quand même.
Bon, oui, quoi, c'est 25%, ça fonctionne à 25% du temps.
Ah, en mer, bon. Je pense qu'en mer.
Bon, mais il y a un comité d'accueil, paraît-il, pour le président de la République, parce qu'il y a beaucoup d'habitants de votre belle presqu'île qui ne sont pas très heureux de ces éoliennes.
Non, je n'ai pas vu de comité d'accueil. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce parc éolien va produire 20% de l'énergie de la Loire Atlantique. Et de ce fait-là, c'est une nécessité. Et ça, on ne peut pas le nier. C'est une réalité technologique. C'est quand même le premier projet industriel aujourd'hui aussi important depuis plusieurs décennies. La seule chose, c'est que ce qu'on regrette d'abord, qu'il faille 13 ans pour faire telle infrastructure en France, mais surtout c'est que on répare les erreurs du passé. Avec
bien sûr, j'ai entendu.
C'est ça la difficulté. Vous savez, quand on a arrêté l'aéroport que vous connaissez de Nantes Atlantique, on va payer dans les années à venir aussi l'arrêt de cet aéroport, parce que nous sommes en sous-équipement aéroportuaire. Bah, c'est exactement la même chose en matière énergétique aujourd'hui, on répare le passé.
Bon, je vous remercie Franck Louvrier, même si j'ai appris que le président de la République, ça aussi ça m'a amusé parce qu'on va tous terminer un peu fou, le président de la République devait rentrer à Paris avec son avion présidentiel, mais il se pose à Nantes pour économiser du carburant. Donc l'avion va repartir après avec la délégation qui sera à Paris. Nous sommes d'accord. Non, pas pour gagner du temps, pour gagner, dit l'Élysée, un peu de CO2. Pourquoi ? Parce que tu économises, nous dit-on, un voyage, puisqu'autrement il serait allé à Paris, il aurait pris son Falcon et le Falcon serait reparti. Simplement, son Falcon, il va le prendre ce soir et le Falcon, il est parti de Paris, mais il va rouler à vide, simplement sans lui. Donc j'ai pas vu l'économie. Alors peut-être vous lui demanderez, parce que moi j'ai pas saisi Franck Louvrier.
À moins que ce soit l'avion Spare qui accompagne l'avion présidentiel aux États-Unis qui passe par là aussi. Parce que vous savez, c'est assez compliqué les trafics aériens. J'en ai fait quelques heures, si c'est quelques centaines d'heures. Il faut essayer à la fois d'optimiser bien sûr les transports, mais aussi de protéger le président, ce qui n'est pas une mince affaire, et puis ne pas non plus perturber l'ensemble des voyages des concitoyens, parce qu'un président de la République dans un TGV, je peux vous assurer, il faut mieux pas être dedans, hein, parce que vous êtes sûr de pas arriver à l'heure.
Bon, ben merci Franck Louvrier, c'était intéressant.
C'était difficile en char à voile.
Merci. Ben, ça aurait été difficile. Bon, j'ai fait cette petite parenthèse et on revient à la Russie parce que BHL a eu des mots très rudes, durs hier. D'abord, il faut saluer le courage de BHL qui était évidemment en Ukraine, qui a témoigné d'une réalité. C'est un papier d'ailleurs qui est dans Match que vous pouvez voir. C'est-à-dire que là encore, il est sur le terrain, Bernard-Henri Lévy, et il témoigne, et il rapporte du témoignage. Il était hier soir avec Laurence Ferrari, et je vous propose de l'écouter. Poutine est un terroriste.
C'est la preuve qu'il est un terroriste d'État. Il est un terroriste. Il y a des terroristes comme Daesh, et puis il y a des terroristes comme Poutine. Les uns, Al-Qaïda, utilisent des avions contre World Trade Center, et lui menace d'utiliser l'arme nucléaire. Ça s'appelle un terroriste. Et deuxièmement, oui, ça veut dire qu'il a perdu, ça veut dire qu'il est aux abois. Cette mobilisation des 300 000 réservistes, vous savez bien, c'est justement ce qu'il voulait éviter.
Bon, il est aux abois ou est-ce que BHL dit les choses telles qu'il voudrait qu'elles soient ? Est-ce que Poutine a perdu la guerre ? Est-ce qu'il est aux abois ? Est-ce que c'est une marque de faiblesse ?
BHL, d'abord, il va d'un seul côté. Bon, je dirais la guerre. Mais enfin, il y a eu dans d'autres guerres des gens qui ont essayé d'aller des deux côtés. Bon. Donc déjà, ces témoignages, je ne les mets pas en doute. La guerre, elle est horrible. Et ce que font les Russes, certainement, est horrible. On le voit sur un certain nombre de dossiers humanitaires. Cela étant, j'ai un tel, et je ne suis probablement pas le seul dans ce pays, j'ai un tel mauvais souvenir de l'influence politique, je ne parle pas de l'influence du grand reporter BHL, mais de l'influence politique de BHL auprès du président Sarkozy lors des affaires de Libye et des résultats que ça a entraînés, que je suis toujours un peu méfiant quand j'entends BHL surgir au devant de l'actualité et donner une sorte de leçon d'anti-poutinisme exacerbé. Voilà, c'est tout.
Oui, il faut lire peut-être autant que BHL, il faut lire.
C'est tout. Quand on est intervenu en Libye, effectivement, mais ouais. Quand on n'est pas intervenu, c'est pas mieux.
Non, donc, ça a été une catastrophe, la Libye, parce qu'à l'avis général, c'est la pire intervention de toute la Ve République. Mais il y a peut-être un livre à lire, puisqu'on parle d'intellectuel, là, d'un romancier qui s'appelle « Le mage du Kremlin ». Moi, je vous recommande ce livre de Daum Polik. Il est sur la liste du Goncourt, d'ailleurs.
Le mage du Kremlin.
Le mage du Kremlin, édition Gallimard, paru avant l'été. Et il fait parler le conseiller de Poutine. Et il y a cette phrase que je trouve très intéressante, le conseiller de Poutine imaginaire, mais en fait assez réel. C'est que Poutine vient de la guerre, il est arrivé au pouvoir par la guerre en Tchétchénie. Et que la logique de son système, ça a été avant l'Ukraine, hein. La logique de son système est de retourner à la guerre. Voilà. Donc Poutine est dans une logique impérialiste, je ne sais pas si ça sert à grand-chose de dire que c'est un terroriste d'État, il est dans une logique impérialiste. Tout l'enjeu, c'est de ramener Poutine et la Russie à une logique qui ne serait plus impérialiste. Et ça, c'est très compliqué. Et c'est quand même mieux d'avoir un rapport de force un peu favorable pour les forcer à la négociation que de les laisser envahir l'Ukraine.
On va marquer une pause. Il est 9h50. On parlera, pourquoi pas, de l'accueil qu'a reçu hier M. Zelensky à l'ONU. On parlera LFI. C'est un sujet qui peut intéresser l'avocat que vous êtes, bien évidemment. On reviendra peut-être sur le parc éolien. À tout de suite. Et on sera avec Robert Ménard dans une seconde.
Maintenant, pour mieux gérer votre santé, tout se passe dans l'espace. Dans l'espace, vous allez pouvoir ranger toutes vos informations médicales, échanger avec vos professionnels de santé et bientôt explorer de nouveaux autres services. Mais non, pas cet espace-là. Mon espace santé, le nouvel espace sécurisé dont chacun bénéficie désormais pour s'occuper de sa santé. Mon espace santé, vous avez la main sur votre santé.
Dans la vie, on aimerait tous avoir un petit coup de pouce pour faire le bon choix.
Oui.
C'est pour ça que La Centrale crée l'indicateur Bonne Affaire, une jauge vous permettant de voir instantanément les bonnes affaires du moment. La Centrale, l'occasion, c'est un métier.
Il est 9h57, dans deux minutes, ce sera le rappel de l'info avec Audrey Berthoud. Mais nous recevons Robert Ménard sur ce plateau, qui va pouvoir réagir sur toutes les informations et toutes les actualités du jour. Vous avez peut-être lu ce livre, Les Somnambules
Non, mais je vous ai entendu
en parler. Voilà, vous m'avez entendu parler tout à l'heure. Et ça, c'est une question du jour sur la co-responsabilité du monde. Est-ce que nous sommes, c'est une question que je pose depuis ce matin à tous les intervenants, est-ce que selon vous nous sommes des somnambules? Est-ce que nous allons à la guerre en clair? Et la guerre nucléaire en l'occurrence.
Vous savez, en juillet 14, je ne crois pas que les gens qui étaient les acteurs de l'actualité imaginaient qu'ils étaient pris dans une espèce d'engrenage qui allait produire ce qu'il allait produire. Alors, il n'est pas exclu qu'on soit incapable de prendre une espèce de distance par rapport aux événements et qu'on ait un peu de clairvoyance. C'est possible. Moi, comme ça, vu au quotidien, mais comme vous, j'ai l'impression qu'on va vers le pire avec un monsieur Poutine qui, contrairement à ce que dit Éric Zemmour, je ne crois pas que ce soit le Lincoln russe, pardon, pour avoir écouté ce matin ce qu'il disait. C'est juste un envahisseur. C'est juste un envahisseur d'un pays qui est indépendant. C'est quand même une petite nuance. Mais il y a toujours une partie des hommes politiques français qui sont, eux, alors je ne sais pas où ils en sont, mais d'un aveuglement.
Qui
Éric Zemmour, Marine Le Pen, de l'autre côté Mélenchon, qui décidément dire d'un type que c'est un dictateur, ça leur arrache la gueule quand même. Hein.
Oui, je vois que... Alors, je suis très surpris parce qu'Alain Jakubowicz, d'habitude, qui est.
Mais moi,
volcanique, vous suis... êtes. Mais c'est non, la voix, peut-être vous
ah,
êtes,
oui, peut-être. Non, mais je suis le parcours de M. Ménard et je suis subjugué, voilà, de ses évolutions, de ce parcours qui a eu sûrement un point de départ. Et une logique, et moi je salue cela. Pardon, voilà, je le salue, monsieur.
Donc, non, mais il dit quelque chose de gentil sur vous, donc ne vous trompez pas.
Je crains que ce ne soit pas.
Si, il dit quelque chose de gentil, attendez Alain.
J'ai cru de l'ironie.
Non, mais il le dit, mais non, il est.
Je me souviens un jour allant plaider je ne sais où, et vous entendant à la radio, je me suis dit, mais je me suis pincé en me disant, mais je. C'est un nouveau Ménard, je suis d'accord avec lui.
Pardon,
mais très bien, monsieur.
Sur les droits de l'homme, j'ai toujours dit la même chose. Pardon, je n'ai pas changé d'un iota. Bon. Simplement, il y a un certain nombre de gens pour qui, si tu es de droite, tu ne peux pas parler des droits de l'homme. Je ne garde pas, les droits de l'homme ne sont pas l'apanage de la gauche.
Il n'y avait aucune ironie dans mon propos.
Non, il était gentil.
Voilà. Je le salue.
Je vous assure, je connais bien Alain Jakubowicz. Il n'avait pas été gentil depuis 1963-1964. Et c'est la première fois qu'il l'était. Audrey Berthaud.
J'allais dire mes copains de Novaya Gazeta, le journal indépendant, je les ai défendus quand j'étais à la tête de Reporters sans frontières. Je continue à les
Robert
défendre.
Robert Ménard,
il y a cinq personnes
qui ont dit
vous voulez que je vous dise ce que je pense de vous, je vous l'ai déjà dit. Vous êtes un honnête homme.
Merci.
Oui, mais je crois qu'on peut le dire.
Vous êtes un honnête homme. Et ici, il n'y a que des honnêtes hommes. Oui. Autrement, les autres, ils n'ont pas le droit d'entrer. On peut se tromper, bien sûr, mais il n'y a que des honnêtes hommes. Et. Il y a même une femme avec nous,
au sens du 19e, hein, évidemment.
Bah, oui, c'est même au sens du 17e. 10 heures, Audrey Berthaud.
Plus de 1300 personnes ont été arrêtées en Russie par les autorités. Des manifestations ont éclaté un peu partout dans le pays après les annonces de Vladimir Poutine. Il s'agit des plus importantes protestations en Russie depuis celles qui ont suivi l'annonce de l'offensive russe en Ukraine. Un séisme de magnitude 6,5 enregistré au Mexique. Une forte secousse a ébranlé la capitale Mexico où vivent 22 millions de personnes. L'épicentre du séisme était situé dans l'ouest du Mexique, dans l'état du Michoacán. Enfin, la reine du Danemark, Margrethe II, a été testée positive au Covid. Elle était présente aux obsèques de la reine Elisabeth II lundi. La souveraine âgée de 82 ans, triplement vaccinée, avait déjà eu le Covid en février. Le palais a précisé dans un communiqué que les activités de la reine cette semaine ont été annulées, sans plus de précision pour le moment sur son état de santé.
L'honnête homme Olivier Dartigolle est avec nous, l'honnête homme Gérard Carrérou également, l'honnête homme Philippe Guibert est là et l'honnête homme Alain Jakubowicz est là. Bon, il y a un sujet qui m'intéresse sur la Russie qu'on n'a pas parlé et dont on n'a pas parlé, et ça, est-ce que ça peut avoir des conséquences? C'est les manifestations russes qui existent. Ça, je voudrais savoir si ça peut déboucher sur quelque chose. Voyez le sujet de Thomas Chama.
Qu'importe le nombre de flashs de journalistes, les arrestations de manifestants s'enchaînent. Quelques heures à peine après l'annonce de la conscription pour l'offensive en Ukraine, les Russes scandent leur mécontentement dans les rues des plus grandes villes du pays. Selon l'ONG OVD Info, plus de 1300 personnes auraient été interpellées hier dans les 38 villes où ont eu lieu les manifestations improvisées.
Je manifeste car je suis contre ce qu'on appelle l'opération spéciale.
Nous n'avons pas peur, nous avons seulement la haine contre le régime en place. Il s'attaque à la vie de nos enfants, je n'ai plus peur de rien. La chose qui a la plus de valeur pour moi, c'est la vie de mes enfants.
Le ministère russe de l'Intérieur a affirmé avoir réprimé des tentatives d'organiser des rassemblements non autorisés. Les personnes interpellées, la plupart sans ménagement, ont été conduites, toujours selon le ministère, dans les unités de police territoriale pour une enquête et des poursuites judiciaires.
Est-ce que ça, c'est révélateur? Est-ce que ça peut changer quelque
chose? Courage, en tout cas.
Oui, beaucoup de courage. Il faut se rappeler que quand Poutine ouvre le conflit, il parle de dénazification. Et ce terme, ça a une symbolique très forte pour le peuple russe depuis la guerre patriotique. Il savait très bien qu'il appuyait sur quelque chose qui pouvait créer une cohérence. Mais ça, c'est en train de se craqueler. Parce que l'opinion publique russe, quand bien même, elles n'ont pas beaucoup d'informations, outre les médias sous contrôle, elles voient bien que ces objectifs de guerre qui étaient présentés n'étaient pas les vrais. Et il y a un vrai mouvement dans la société civile russe d'opposition à la politique Poutine. d'opposition à ce conflit. Maintenant, à quel niveau et il y a les effets des sanctions économiques qui commencent à se faire sentir.
Alain Jakubowicz.
Oui, moi, j'aimerais que ça soit large, mais je crains malheureusement, vu le nombre de Russes et comment ils sont. Moi, ce que je veux relever, c'est le rôle des femmes. Là, c'est pas un hasard, hein, c'est deux femmes qu'on entend. Le rôle des mères, des épouses, le courage de ces femmes des deux côtés. Parce que ce qui m'avait, moi, interpellé justement du côté ukrainien au début, c'était le courage incroyable de ces femmes. Et sans doute, espérons-le, que la sagesse peut-être viendra de ce côté-là. Le rôle des femmes est absolument essentiel.
Et les femmes iraniennes.
Et le courage des femmes iraniennes. Et là, bon, alors c'est pas parce que je vais dans l'air du temps, c'est vraiment pas mon genre là-dessus, mais vraiment, l'importance de la parole et du courage de ces femmes est extraordinaire et qui est historique. J'ai commis récemment un ouvrage sur le témoignage des femmes au procès Barbie. Vraiment, le rôle des femmes dans ces périodes importantes de la vie de l'humanité, en réalité, est absolument essentiel.
Oui, moi, je vais redire la même chose que vous, avec une petite pointe plus polémique. D'abord, quel courage, vous le disiez. Il faut s'amuser à manifester. C'est pas manifester à Paris, non. Il faut juste rappeler aux gens qu'entre manifester à Paris, entre, je sais pas quoi, la Nation et Bastille-Nation, c'est quand même assurer aucun risque, quand même. Là, tu sais jamais comment la soirée finit.
Il y a des black box.
Non, mais c'est important.
Ça se termine au poste.
Ah, il a raison.
Non, mais ça va. Non. Il faut pas confondre tout. Attendez.
Non, je parle de Moscou, là.
Oui, voilà. Ce que je veux dire, c'est le courage des gens. Souligner, vous avez raison de le dire, souligner, c'est la même chose. C'est-à-dire, aujourd'hui, brûler un voile en montrant son visage sur des réseaux sociaux, tu t'inquiètes de ta survie. Ce n'est pas une question de ça. Et tout ça pour dire que moi, je suis sidéré qu'un certain nombre de gens aient aussi peu d'envie d'être solidaire par rapport aux uns et aux autres. Je veux dire, par rapport à nos féministes parisiennes, enfin, c'est le service minimum syndical par rapport aux Iraniennes qui risquent leur vie en ce moment. Enfin, vous lisez, on retweet vaguement ou on retweet pas. Madame Schiappa, qui quand même saute au plafond chaque fois qu'il y a un homme qui lui parle sur un ton où elle peut dire « Ah, mais c'est parce que je suis une femme que vous osez me parler comme ça », elle a fait quoi sur les Iraniennes? Elle a dit quoi?
On en a parlé ici.
Pardon de ne pas savoir. Moi,
non, mais c'est vrai, mais voilà. Vous avez parfaitement raison. Il y a des indignations sélectives et puis il y a des bonnes victimes et des mauvaises victimes, comme des bons coupables et des mauvais coupables. On ne cesse de le dire depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans.
C'est insupportable.
Ben oui, je sais.
Cette espèce de schizophrénie, d'être incapable de dénoncer dans tous les cas. Hier, j'arrive du Liban. Au Liban, je suis allé aider parce qu'on reconstruit une école.
Quand vous dites « on », c'est le partenariat avec Béziers, bien sûr.
Avec Béziers.
Parce que je n'ai pas rappelé que vous étiez maire de Béziers.
Voilà. Mais bon. Et donc, une ville, vous savez, on reconstruit dans un petit village une école. Ça peut vous paraître dérisoire, mais ce n'est pas dérisoire que des gosses puissent aller à une école privée, une école publique.
Et c'est vous qui payez ?
Avec mon ami qui s'appelle Omar Arfouche et la ville qui ont donné l'argent. Il est libanais, il a donné une part de l'argent. Et nous, on a amené du matériel. Et j'ai rencontré, c'est sur le courage, et il y a une corruption au Liban invraisemblable. Enfin, on le sait les uns et les autres. Quand on a envoyé ce matériel, il est arrivé au port. Vous savez, le port dont tout le monde parle de Beyrouth, il y a eu l'explosion. Figurez-vous que les gens, les douaniers et tout ça, voulaient de l'argent pour donner, pour qu'ils puissent récupérer des bancs d'école. Les parents, ils ont pris sur eux. Ils sont allés eux-mêmes, avec leur camion, chercher les bancs d'école dans le port. Je vous garantis que tous ces gestes, c'est pas tout à fait rien. Moi, je suis estomaqué du courage d'un certain nombre de gens par rapport, encore une fois, moi, je dis tout ce que je dis là, ça ne me conduit à prendre aucun risque.
Revenons sur la Russie, si vous le voulez bien, et revenons sur Zelensky hier, et voyez l'accueil qu'il a eu à l'ONU, c'est une séquence où le président Zelensky parle et l'ONU lui rend hommage, c'était hier.
This is the foundation for restoring global security.
le président Zelensky qui a demandé que la Russie perde son droit de veto. Et je voulais que vous écoutiez le président Macron et vous nous direz peut-être, vous, Robert Ménard, puisque on peut dire que vous êtes proche, en tout cas vous êtes rapproché ces derniers mois de Emmanuel Macron, si sur ces sujets vous avez eu des échanges ensemble. Écoutons le président de la République.
Ce à quoi j'appelle la Russie au premier chef, et tous, c'est que nous mettions tous, c'est évidemment le cessez-le-feu et la paix, et c'est que tout le monde puisse mettre maintenant le maximum de pression sur le président Poutine, pour qu'il cesse cette guerre qui n'a plus aucun sens. Et je me félicite des déclarations récentes du président chinois, du premier ministre indien, et je souhaite que, dans la lignée de ce que j'ai pu exprimer hier à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, nous puissions nous unir et progressivement être de plus en plus nombreux.
La difficulté, Robert Ménard, c'est qu'on peut être d'accord avec l'analyse d'Emmanuel Macron, mais est-ce qu'il a de l'influence? Est-ce que la voix française est entendue? Est-ce que quand il donne la leçon, entre guillemets, aux autres pays, est-ce que c'est efficace? Voilà les questions qu'on se pose.
Et comme vous, je n'en sais rien. Je ne sais pas le
Mais est-ce que c'est la bonne stratégie? Est-ce que c'est la bonne stratégie
de continuer à discuter avec Poutine quand il y a le chef de l'État?
Oui, non, ça, y a pas, c'est pas ça. C'est son intervention à l'ONU.
Non, certains le lui ont reproché.
Il tente de discuter, ça, je ne pense pas qu'on lui fera le reproche.
Moi, je ne peux pas, je le lui reprocherai pas. Je vous reprends, je ne suis pas proche de M. Macron. Je suis capable de dire de M. Macron qu'il a raison quand il a raison, tort quand il a tort. C'est juste une espèce de pragmatisme absolu. Moi, tout ce qu'il vient de dire, comment ne pas être d'accord? Moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est pas ce qu'il a dit. Il y a un mot qui m'inquiète aujourd'hui, c'est tous ceux qui vous disent, vous savez, la paix, la paix, la paix. La paix, la paix, la paix, la paix, c'est pas un objectif en soi. Ça vous rappelle quelques petites choses. La paix, la paix, la paix, entre
la 30... paix, Robert Ménard, peut être un objectif.
Oui, non, mais elle est pas, c'est pas au nom de la paix qu'on fait n'importe quoi. Il y a des guerres qui sont plus justes que des moments de paix. Pardon, il faut le dire. Mais c'est ça que je veux dire.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans la diplomatie internationale aujourd'hui, des processus de cessez-le-feu et de paix, il n'en est presque plus question.
Attendez,
il n'y a rien dans les radars.
D'abord, c'est aux Ukrainiens de choisir. C'est pas à nous. Je veux dire, c'est les Ukrainiens qui sont envahis. C'est derrière les Ukrainiens qu'on doit se tenir. Qu'on ne pousse pas les Ukrainiens à faire plus la guerre qu'ils ont envie de le faire. Mais aujourd'hui, quand vous entendez Zelensky, moi j'étais encore il y a 15 jours en Ukraine, les gens, ils nous demandent pas de parler de la paix et tout. Ils nous demandent juste, derrière eux, et de leur fournir le matériel qu'on ne leur a pas fourni, un certain nombre de chars nouveaux français ou allemands. Ils
Philippe
nous demandent
Guibert.
Ils crient pas la paix, la paix, la paix. Ils disent, soutenez-nous, on est envahis. C'est ça, la
Et après, on change de sujet. Philippe Guibert, pour conclure.
Après, la vraie question est de savoir à quel moment Poutine va accepter de négocier.
Il n'accepte pas.
Pense que les manifestations que vous nous avez montrées sont admirables de courage, parce que ça se termine au poste, voire en prison, pour les personnes concernées. On a vu que tous les billets d'avion pour les capitales qui sont encore reliées à Moscou avaient été achetés dans la journée qui a suivi le discours de Poutine. On a vu aussi que les roquettes Google commencent à casser le bras, étaient en tête des roquettes Google en Russie, ce qui prouve que les gens n'ont pas envie d'aller mourir pour le Donbass. Donc, est-ce qu'on est dans un moment où on peut forcer Poutine à la négociation, parce qu'il est assez affaibli? Parce qu'on ne pourra pas négocier à leur place. Si Poutine ne veut pas négocier, on ne pourra pas négocier.
Attends, est-ce que je peux juste...
Un mot.
À ceux qui nous disent les sanctions ne servent à rien, parce que c'est la paix, les sanctions. Ne servaient à rien...
Mais on ne dit pas monsieur, ça.
Quoi?
On ne dit pas les sanctions servent à rien, on dit que nous-mêmes sommes les premières victimes parfois des sanctions qui sont prises, ce qui est un peu différent.
Non, il y a une partie
plus,
des gens qui disent ça.
Et en plus, la Russie n'a jamais été aussi riche.
Qui vous disent, oui, la preuve, et qui disent, que oui, certains, que les sanctions ne sont pas une bonne réponse. Si elles étaient aussi inutiles que ça, je vous garantis qu'il n'en serait pas là.
Bon. L'actualité judiciaire, nous avons parlé du meurtre de Julien Videlaine, et vous connaissez cette histoire affreuse où un père de famille aurait tué pour des raisons d'honneur, un crime d'honneur, celui qu'il considérait comme ne pas être l'homme qu'il fallait à sa fille. C'est bien de cela dont il s'agit. La fille de l'accusé, d'ailleurs, Muhittin Ulug, on en a parlé lundi ou mardi, s'est présentée hier comme la seule responsable de la mort de son petit ami Julien Videlaine en 2014 à Nogent-sur-Oise, au troisième jour du procès aux assises de son père qui est jugé pour ce meurtre. Tout ce qui s'est passé, c'est de ma faute. La fille a regretté mercredi soir avoir enfin les règles de sa famille franco-kurde en cachant sa relation amoureuse. Voilà ce qu'elle a dit quand même. C'est ça qui est terrible. Je crois que Noémie Schulz est avec nous. Noémie, vous êtes là, Noémie. Le réquisitoire vient d'avoir lieu et c'est un réquisitoire de 30 ans qui a été prononcé par le procureur. Bonjour.
Oui, l'avocat général, au terme d'une heure d'un réquisitoire, a demandé au juré de condamner Muhittin Ulug à la peine maximum qui est encourue pour ces faits, la peine de 30 années de prison. Il a donné toutes les raisons à ces réquisitions. Il est d'abord revenu sur l'horreur des faits, ce crime terrible, cette scène dont même les experts ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça. Le médecin légiste, le policier qui était intervenu sur place, un policier d'expérience, ses 19 coups de couteau, ses 30 plaies sur le corps du jeune homme. Il est revenu, bien sûr, sur la fuite de Muhittin Ulug, qui juste après les faits était parti en Turquie et qui pendant 4 ans a tenté d'échapper à la justice. L'avocat général s'est attardé bien sûr sur la douleur de la famille de Julien Videlaine, mais aussi sur la situation de Nesrine, cette jeune femme qui avait 19 ans à l'époque des faits et qui a tout perdu le jour où son père a tué son petit ami. Elle a perdu son premier amour, elle a perdu sa famille, elle a été menacée par ses proches, elle a dû s'installer dans un foyer. Depuis, elle n'a toujours pas renoué contact avec sa mère, avec ses sœurs qui sont présentes ici. Les proches sont très présents au procès. Et puis, l'avocat général, il a insisté sur le trouble à l'ordre public. Il a évoqué, bien sûr, longuement la question de la tradition, les raisons de ce passage à l'acte. Le fait que cet homme, il n'a pas supporté la vision de sa fille avec un jeune homme. Et il a dit, en agissant comme vous avez agi, vous jetez le trouble aussi sur toute la communauté kurde, alors que c'est bien un acte qui vous est propre. Vous auriez pu réagir autrement que par cet accès de violence. Et pour toutes ces raisons-là, il a donc requis la peine la plus lourde à l'encontre de Muhittin Ulug.
Manifestement, la défense de M. Ulug n'a pas été retenue. Il disait qu'il avait pensé tuer un cambrioleur. C'était cela qu'il disait. Noémie Schulz.
Oui, et ça, c'est absolument. Et les débats ont montré que ça n'était absolument pas crédible. Depuis le début, Muhittin Ulug, il dit que ce jour-là, il était très inquiet, que sa fille ne répondait pas au téléphone. Il arrive chez lui, la porte est fermée à clé. Il rentre chez lui en passant par la fenêtre. Il dit : « Je suis très inquiet. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de s'en prendre à ma fille. » L'avocat général lui dit : « Mais vous n'entendez pas de cris, il n'y a pas de dispute, il n'y a aucun signe d'effraction, la maison n'est pas en désordre. Et là, vous prenez un couteau, vous prenez le soin d'enlever vos chaussures. Tout cela n'est absolument pas crédible. Muhittin Ulug, il a maintenu à la barre. Hein. Il a maintenu que c'est Julien Videlaine qui avait le premier tenté de l'agresser. On imagine cette scène, cet homme qui ouvre la porte de la salle de bain, il a un couteau à la main. En face, il y a ces deux jeunes gens, ce jeune homme tout nu qui n'a absolument pas les moyens de se défendre. Là aussi, l'avocat général a insisté évidemment qu'il n'a pas pu tenter de s'en prendre à vous. Il vous a même demandé de vous arrêter. Votre fille a tenté de s'interposer. Elle a été blessée d'ailleurs sévèrement à la main. Cette version n'a pas tenu et l'avocat général a regretté que jusqu'au bout Muhittin Ulug s'y soit accroché. Hier, il a encore répété qu'il avait agi en quelque sorte pour se défendre parce que Julien Videlaine s'était jeté sur lui.
Merci beaucoup Noémie Schulz et on attendra évidemment le verdict. L'avocat pénaliste que vous êtes a peut-être commentaire.
Je salue le travail de Noémie Schulz. Voilà, elle a fait un travail de reporter judiciaire. Je me plains précisément que les Français ne connaissent pas suffisamment leur justice. On ne peut plus accéder au palais de justice pour des raisons de sécurité. Mais voilà, la justice vient aux justiciables par la narration de cette affaire. Chacun fera sa religion et son avis sur cette affaire. Voilà.
Et Noémie est remarquable. Et Noémie est remarquable de rigueur et de précision et sur ces débats.
Parfait. Il laisse. Maintenant, la défense va s'exprimer. Pour l'instant, c'est l'avis du parquet général. La défense n'a pas convaincu le parquet général. Mais ce qu'il faut convaincre, c'est la cour. Donc on verra ce que fera la défense et on verra ce que la justice sera, dont il me plaît de rappeler de façon sempiternelle qu'elle est rendue au nom du peuple français. C'est pas un vain mot, la justice qui est rendue au nom du peuple français.
Alors justement, puisque vous avez la parole, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, Alain Jakubowicz, et on en a parlé tout à l'heure, la séquence que nous vivons de la France insoumise, avec effectivement des décisions qui sont prises, alors que par définition, la justice ne passe pas ou n'a pas le temps de passer. Et je disais tout à l'heure à Éric Zemmour, moi, il me semble qu'il y a un devoir éthique aujourd'hui sur tous ceux qui prennent la parole. Mais c'est vrai pour un homme politique, mais c'est vrai pour un présentateur de télé, c'est vrai pour l'avocat que vous êtes. Si on apprend demain que vous giflez des femmes ou que vous avez un comportement qui est répréhensible dans votre vie privée, je pense que votre crédibilité sera atteinte, à juste titre.
Éric Zemmour était en désaccord avec vous sur ce point.
C'est pour ça que nous avons eu cet échange. Et comment dire, je pense qu'il y a ce désir d'éthique, mais moi, il ne me choque pas ce désir d'éthique, pour tout vous dire.
Je pense que le pire des maux qui frappent notre société, c'est le relativisme. Tout égale tout. Aujourd'hui, on a un homme, M. Quatrens, que je ne connais pas, pour qui je n'ai pas une sympathie particulière, dont il semblerait qu'il ait giflé sa femme. Ce qui était
non, mais c'est lui qui le dit.
Évidemment, très bien.
Donc, okay. C'est pas il semblerait, puisqu'il
mais
le dit lui-même.
Dans un contexte qui est le contexte d'une séparation, d'un divorce, je n'en sais rien, et puis je ne veux pas le savoir. Égal, violeur, violence sexuelle, les choses les plus outrancières, pardon, je le dirai, je sais que je vais être critiqué par cela. Je n'ai jamais levé la main ni sur ma femme, ni sur une femme. Mais je dis d'expérience comme avocat que cela, hélas, peut se produire. Et ça ne fait pas de celui qui, en une occurrence, dans des circonstances qui sont terribles, qui sont celles du déchirement des couples, des choses qui peuvent commettre un acte qui est insupportable, que celui qui va le commettre va être le premier à regretter. Et ensuite, on voit des couples qui reprennent leur vie et qui arrivent à se pardonner. En faire des exemples tels que c'est fait avec des commissions d'enquête privé, avec des sanctions, avec cette situation de Madame Rousseau qui vient aujourd'hui, vient balancer son compagnon, enfin son compagnon au parti, monsieur, sur une femme qui est venue dire qu'elle aurait... C'est insupportable. Et d'abord, c'est la négation de la justice, c'est la négation de l'état de droit, c'est des milices privées, c'est la délation, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un homme aujourd'hui, vous disiez, vous m'interpelliez, ben oui, j'en sais rien, moi, je veux vous dire, je peux vous dire la main sur le cœur que non, mais qui peut dire aujourd'hui, qui est à l'abri de cela? Eh bien, cette insécurité judiciaire, cette insécurité sociale, ces excès dans les conséquences que cela occasionne, c'est tout simplement insupportable. Ces gens qui aujourd'hui sont à la tête de l'État, qui ont un groupe politique extrêmement important, qui viennent faire leur petite cuisine, leur petite justice, dans leur petite commission, simplement parce qu'on a entendu que c'est insupportable. Et moi, en tant qu'auxiliaire de justice, je suis un auxiliaire de justice, moi j'aime la justice, j'aime l'État de droit, eh bien c'est la négation même de la justice et de l'État de droit.
Je vous ai pas coupé ?
Pardon, je vous prie.
Non, parce que je ne vous ai pas coupé, parce que je pense que beaucoup de gens peuvent adhérer à ce que vous avez dit. Et en même temps, on est sur une ligne de crête. Robert Ménard et Philippe Guibert.
Oui, moi, je partage tout à fait ce que vous avez dit, maître. Je trouve que c'est en plus courageux.
Et vous l'avez bien
de le dire.
C'est
vous
votre
le dites,
talent oratoire.
Vous le dites très, très bien. Je crois que Éric, tout à l'heure, Éric Zemmour, avait raison de dire que, en gros, c'est l'arroseur arrosé, quand même. C'est
oui, mais l'éthique.
Non, je vais venir à ça. Je pense qu'il a raison là-dessus, de dire que c'est des gens, vous le dites, je veux dire, qui font qui jettent en pâture la vie privée de leurs propres camarades, quand même. C'est une folie. Et qu'il faut attendre, il faut le dire, il faut attendre la décision de justice. On ne peut pas... Non, mais attendez, ça c'est une chose. Où je ne suis pas d'accord avec Éric, et j'arrive là-dessus, il n'empêche qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de ça. Aujourd'hui, effectivement, moi je ne connais aucun des acteurs, je les connais comme vous, je les vois à la télé, pas plus, et je n'ai pas leurs idées. Mais je trouve en même temps qu'il faut être prudent par rapport à eux, donc je n'irai pas jeter de l'huile sur le feu et tout, je me garderai bien, je ne suis pas dans leur couple et tout ça. Honnêtement, vu de l'extérieur, c'est tellement facile de dire un certain nombre de choses. Mais où Éric a tort, c'est qu'aujourd'hui, oui, le public, il est en demande, en gros, de politiques exemplaires.
J'ai cité un comédien, Alain Jakubowicz. Je ne vais pas dire son nom là, mais un comédien qui est retiré aujourd'hui depuis l'automne dernier, parce qu'il est accusé par une femme
de viol ou de violence en tout cas et attendez, sa carrière le, sa carrière viol, s'est arrêtée pardon,
encore une fois
non, mais je de violence sexuelle sa carrière s'est arrêtée
le viol c'est pas une gifle qui a été donnée dans un moment
ça qu'il
pardon
faut,
mais c'est ce tout égal tout
non mais vous n'avez pas compris ce que je veux dire vous n'avez pas compris ce que je veux dire cet acteur qui est accusé de violence sexuelle par un témoignage d'une femme. Aujourd'hui, la justice n'est pas passée et sa carrière s'est arrêtée. C'est-à-dire que même d'autres femmes ont dit « je ne veux plus tourner avec lui », des producteurs ont arrêté, des séries de télévision dans lesquelles il était engagé se sont arrêtées. Vous voyez ce que je veux dire, la difficulté de l'époque. Alors qu'il est présumé innocent par définition.
Pascal, c'est ces mêmes leaders politiques, eux mis en cause aujourd'hui, dont je ne sais pas ce qui s'est passé, je me garde bien de les chier, c'est les mêmes qui envoyaient aux gémonies un certain nombre de gens qui, de droite, étaient mis en cause. Et qui
comme Damien Abad, etc.
Non, mais donc, je veux dire, ils payent aujourd'hui
Philippe Guibert, la parole tourne. La parole tourne.
L'exemple que vous citez du comédien est intéressant, mais en même temps, si on prend l'exemple de PPDA, voire de Nicolas Hulot, aujourd'hui, il y a des choses qui sortent sur PPDA, ça ne l'a pas empêché.
Vous pouvez rien dire sur Nicolas Hulot, je suis désolé, pardon, il y a absolument rien, que les choses soient clairement dites, et je le dis ici, pas de façon très neutre, puisque je suis avec Jacqueline Lafont, son avocat, mais voilà, il y a un classement sans suite, point, terminé, rideau. On arrête avec ça,
Mais le classement sans suite est lié à la prescription des...
Et alors, c'est l'application de l'état de droit. Je veux dire que parce qu'il y a prescription, cela signifie que les faits auraient été
maîtres,
commis.
Est-ce que vous avez vu la décision?
Non, c'est pas insupportable.
Ça m'intéresse un point de droit sur la prescription, ce qui vient d'être dit sur la sérialité concernant PPDA, c'est-à-dire une jurisprudence qui existe, qui fait que si c'est la même personne, le même mode opératoire et le même profil de victime, la prescription peut tomber et les faits peuvent être poursuivis.
Non, la prescription, elle ne peut pas tomber. Pardon, dans un état de droit, la prescription, c'est la prescription.
J'entends ce que vous dites, mais c'est là qu'on est sur une ligne de crête, c'est-à-dire que pour un personnage public, on va pas citer de nom, je vous propose de pas citer de nom, mais on va raisonner en théorie. Ouais. Si vous avez un témoignage, c'est pas la même chose que si vous avez 40 témoignages.
Bien sûr.
Et si vous avez 40 témoignages qui disent la même chose sur une personnalité publique, cette personnalité publique a du mal à continuer, sa vie publique.
Distinguons, si vous voulez bien, la justice de l'élément moral, effectivement, qui peut conduire effectivement une personne de son propre chef à partir du moment où il sera visé de façon réitérée retirer de la vie publique.
Non, mais il se retire parce qu'il n'a pas le choix. Nicolas Hulot, il a dit « moi je me retire parce qu'il ne peut plus aller nulle part ». C'est-à-dire que s'il fait une intervention quelque part, vous avez des manifestations qui sont là. Il ne peut plus aller nulle part.
Et donc, attends,
Philippe Guibert.
Mais là où je vous rejoins, c'est le courage que vous avez de souligner que tout ne vaut pas tout.
Mais ça,
un homme qui a donné une baffe à son épouse, c'est très critiquable et c'est évidemment répréhensible, mais que ça n'en fait pas forcément un homme violent. Ça, c'est une enquête qui doit être...
Il l'est à l'instant T.
Il est l'instant. Après, les gens sont ce qu'ils font.
Est-ce que pour autant il va passer au viol de sa femme?
Et lui-même avait dit dans une intervention, les gens qui sont morts, ils ont fait parfois des. Des mains courantes. Ils ont fait parfois des mains courantes. Ils ont parfois déposé des plaintes. Sous-entendu, on aurait pu arrêter le processus. Lui-même avait dit ça il y a 3-4 ans. Donc c'est l'arroseur arrosé, convenez-en.
Mais c'est vrai aussi. Mais qu'il y ait une enquête sur ce qu'il a fait, ça me paraît tout à fait normal. Je veux dire simplement qu'on ne peut pas, à l'avance, préjuger tant que cette enquête n'a pas été faite. Ce qui rejoint le problème de Sandrine Rousseau, où là, je trouve que Laurence Rossignol a eu la meilleure formule, c'est du baltrap, ce qu'elle fait.
Oui, mais Laurence Rossignol, pardonnez-moi, je l'ai dit hier et je le redis là, et c'est pas défendre Nicolas Hulot que de dire ça. Sur le plateau d'Élise Lucet, après le reportage consacré à Nicolas Hulot, elle était présente sur ce plateau pour précisément faire du baltrap avec Nicolas Hulot. Je peux pas dire autre, au contraire, et je ne dis pas cela, je ne suis pas le défenseur de Nicolas Hulot en disant ça. C'est qu'elle-même a deux poids, deux mesures.
Non, mais donc, aujourd'hui, je suis pas interviewé.
Je parle sous le contrôle de Alain Jacquet.
Juste un mot.
Oui, juste un mot, parce que c'est fini. Notre émission
est aujourd'hui à la justice, avec un grand J, que représente effectivement Maître Jakubowicz, qui a ses faiblesses. Mais il y a la justice. Et on a maintenant deux justices parallèles. On a la justice médiatique.
Non, il y en a qu'une. Oui.
On a la justice médiatique, dont on accuse, on juge déjà sur la foi. Et on a la justice des partis politiques. C'est beaucoup plus grave. Alors maintenant, les gens vont se dire, mais alors, à quelle justice? Où est la justice?
Non, c'est terrible,
bon,
parce que
c'est pour fini, notre émission est terminée.
Pour te relever de mise en cause personnelle, même si après il s'avère qu'il n'y a rien, c'est terrible, parce que je ne sais pas comment tu en sors. Je ne sais pas.
On n'a pas trouvé le bon équilibre, en fait. Non, mais entre l'impunité des puissants et le fait que
la justice, elle est symbolisée par la balance. Oui. D'accord, le problème, c'est que la balance, elle est déséquilibrée. Et dans notre état de droit, dans notre démocratie, on compense un excès par un autre excès qui parfois est pire que le premier excès. Bon.
Merci en tout cas.
Maître, on y participe dans les médias aussi. Bon. Mais nous aussi.
À qui
avec la justice.
Bon, en tout cas, merci pour cet échange que j'ai trouvé de qualité. Si vous me permettez ce commentaire personnel. Et comme il est 10h29, c'est Audrey Berthaud.
Le verdict du procès du meurtrier de Julien Videlaine est attendu aujourd'hui. Le jeune homme avait été victime d'un crime d'honneur en 2014, tué par le père de sa petite amie. Mardi, le père avait affirmé avoir perdu l'esprit à la vue de sa fille avec un homme nu. 30 ans de réclusion criminelle sont requis contre lui. L'indemnisation des pompiers volontaires sera augmentée, une hausse réclamée par les soldats du feu, particulièrement sollicitée cet été sur les incendies de forêt. L'indemnisation de base va augmenter d'environ 3,5% et entrera en vigueur en octobre. Au 31 décembre 2020, on dénombrait en France 197 000 pompiers volontaires. Enfin, en Iran, les manifestations se multiplient après le décès d'une jeune femme de 22 ans arrêtée par la police des mœurs. À la tribune de l'ONU hier, le président des États-Unis, Joe Biden, s'est dit solidaire des femmes courageuses d'Iran. Le décès de la jeune femme a suscité une vague de colère en Iran depuis plusieurs jours.
Bon, bah écoutez, je vous remercie grandement. Nous avons pu échanger sur tous ces sujets de l'actualité. Je remercie Audrey Misiraka qui était à la réalisation, Rodrigue Leprado qui était au son, Bouka Abella qui était à la vision. Merci à Marine Lançon, à Justine Cerquera qui était là également et Jean-Marc Morandini dans une seconde. C'est bien que vous veniez nous voir de temps en temps, monsieur Jakubowicz. D'ailleurs, on dit Jakubowicz.
On dit comme on peut. Mais oui. mais c'est très bien. Bon. J'appuie pour les intimes.
Non, mais c'est bien, c'est bien. Vous avez parlé, vous avez plaidé. C'est peut-être pour ça que vous avez un
beaucoup,
peu cette...
Ça m'arrive.
Bon, ça va, vous avez passé un bel été?
Très bien. Un bel été. On a préparé les procès de l'automne.
Merci à vous, Jean-Marc Morandini, dans une seconde.
Voici la nouvelle Skoda Fabia. Visuel flatteur, route déserte, tout est parfait. Mais vous ne conduirez jamais dans ces conditions. Non, la vôtre roulera dans la vraie vie. Avec à bord un ado et ses goûts musicaux très discutables. Ou un mari qui partit chercher le pain et revenu avec tout le centre commercial. Elle vous permettra de voir tous les spécimens qui peuplent la route et de rouler bien plus détendu. Nouvelle Skoda Fabia. Découvrez-la à partir de 159 euros par mois seulement.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.